Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangu, une émission qui apporte des réponses aux différents sujets de société. Les droits des enfants au Niger, avancées et obstacles, c'est le thème du jour. Les hommes naissent libres et égaux en droit, stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, cette affirmation est mise à rude épreuve quand on se réfère aux résultats des analyses effectuées au Niger sur la situation des droits des enfants. Et cela, malgré l'existence d'un arsenal juridique qui protège les droits des enfants, force est de constater que la situation de cette frange de la population nigérienne, qui représente plus de 56%, n'est guère reluisante. Avec un taux de pauvreté de 4,1% et un revenu moyen par habitant de $420, cette pauvreté a des répercussions graves sur l'accès des enfants à une alimentation saine et équilibrée, des ressources financières suffisantes, des services de santé adéquats, le maintien à l'école et une éducation de qualité, le droit aux loisirs, etc. Dans la première partie de ce forum, nous aborderons les droits des enfants reconnus au Niger et leur application. Dans la deuxième partie, nous parlerons des avancées et des obstacles à l'effectivité des droits des enfants et les voies de recours possibles. Et enfin, nous allons terminer avec les perspectives pour une meilleure réalisation des droits des enfants au Niger. Pour débattre de cette question, nous avons dans ce studio Mme Salma Halima de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, M. Zakari Ibrahim de CONUD Niger, Mme Mourzanatou Mareni du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et Madame Hamidou Adama, toujours du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection des Enfants. À la présentation, Balkis Hamidou, merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangu. Nous allons revenir dans ce studio. Madame Hamidou Adama, expliquez-nous qu'est-ce qu'un enfant selon la loi en vigueur au Niger.
Merci madame. Donc bonjour. Nous remercions le studio Kalangu pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur les droits de l'enfant. Pour revenir à votre question, le texte qui est en vigueur en application au Niger, c'est la convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans.
Et quels sont les textes juridiques qui garantissent les droits des enfants au Niger?
En tout cas, il y a plusieurs textes qui garantissent les droits des enfants au Niger. Si nous prenons sur le plan international et le plan régional, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la convention relative aux droits de l'enfant. Vraiment qui garantit tous les droits à l'enfant. Et le Niger a ratifié cette convention en 1990. Il y a aussi la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ratifiée par notre pays en 1999. Et si nous revenons sur le plan national, là aussi nous avons plusieurs textes, lois et décrets qui garantissent les droits sur la protection de l'enfant. C'est la Constitution du 25 novembre 2010 qui consacre une place primordiale à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, tous les textes lois découlent de la Constitution. L'État du Niger a fait l'effort d'harmoniser nos textes nationaux avec les textes internationaux qui pourront vraiment tenir compte de la réalité de notre milieu socio-culturel. Parce qu'il y a des choses vraiment qui correspondent à notre milieu et des choses vraiment, il faut tenir compte des réalités de notre société.
Et quels sont les droits reconnus aux enfants?
L'enfant a plusieurs droits. Nous allons énumérer quelques-uns, à savoir, tout d'abord, l'enfant a droit à avoir un nom. Il faut donner un nom à l'enfant pour l'identifier parmi ses pairs. L'enfant a droit à l'enregistrement à la naissance, c'est-à-dire de disposer d'un extrait d'acte de naissance. Parce que maintenant, c'est ça qui ouvre la porte aux autres droits. Il faut l'extrait d'acte de naissance. L'enfant a droit à la vie. À la vie, tant que l'enfant est né, il doit vivre. Parce que si je prends des exemples, on voit des enfants qui naissent hors mariage, des enfants non désirés qui sont jetés dans des poubelles, qui sont vraiment tués. Ce n'est pas normal. Tant que l'enfant vient au monde, il a le droit de vivre.
Et Madame Mourzanatou, quelles sont les violations des droits des enfants constatées au Niger et quelles sont les régions où les droits des enfants sont les plus bafoués?
Selon des enquêtes qui ont été menées, un peu partout, il y a les droits des enfants qui ne sont pas respectés, un peu partout au Niger. Et maintenant, par rapport à ça, il y a l'État, les partenaires techniques et financiers, les ONG et associations qui sont en train de travailler, en tout cas de faire de leur mieux pour pouvoir en tout cas éradiquer tout ce qui nuit aux droits de l'enfant. Voyons, même quand on sort de la circulation, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant.
Et les enfants dans la rue.
Les enfants dans la rue. Maintenant, le taux de natalité est élevé dans notre pays. Et sincèrement, même par rapport à ça, il va falloir des actions qui sont en train d'être menées, des actions de sensibilisation, pour que, en tout cas, pour pouvoir réduire le taux de natalité et réduire aussi, par exemple, l'exploitation des enfants. Il y a ceux qui exploitent et utilisent les enfants dans les mines d'or. Il y a ceux qui utilisent les enfants comme dans les travaux domestiques. Là aussi, des actions sont en train d'être entreprises, en tout cas pour pouvoir lutter, parce qu'il faut assurer à l'enfant ses droits. Comme ma collègue a eu à le dire, l'enfant, il a droit, c'est tout un paquet d'actions qu'il faut mener pour que le droit de l'enfant soit assuré.
Quels sont les mécanismes de protection des droits de l'enfant que le ministère a mis en place?
Par rapport aux mécanismes de protection mis en place par le ministère, ma collègue a eu à le dire, il y a des ratifications et mises en œuvre de différentes conventions protégeant les enfants. Il y a l'existence des textes nationaux protégeant les enfants aussi. Et il y a la mise en œuvre de plusieurs approches et programmes de protection des enfants. Là, il y a des actions qui sont menées au niveau communautaire, des actions qui sont entreprises pour en tout cas pallier à tous ces problèmes pour pouvoir mettre les enfants dans leurs droits.
Et nous allons revenir vers vous, M. Zachary Ibrahim Dukonid. Quel rôle joue votre structure en matière de protection des enfants?
Merci, madame. Je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour remercier très sincèrement le studio Kalangu pour tout le travail qui ne cesse d'accomplir en faveur de toute la population et plus spécifiquement en faveur des enfants. Au nom des enfants, en tout cas, nous tenons à vous dire merci et nous vous encourageons. La CONID, comme vous l'avez dit, c'est la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, qui est un collectif de 88 ONG associations actives sur les droits de l'enfant au Niger, réparties sur l'ensemble du pays à travers les 8 régions. En tant qu'ONG, en tant que structure de la société civile, nous apportons notre concours, notre contribution aux efforts de l'État. C'est l'État qui est le leader, le premier responsable de la promotion et la protection des droits de l'enfant. Et la société civile est là pour accompagner les efforts de l'État. Et comment nous faisons cet accompagnement, cette contribution aux côtés des efforts de l'État? Dans un premier temps, nous faisons ce qu'on appelle le suivi général des droits de l'enfant. L'État a ratifié souverainement des conventions internationales et régionales sur les droits de l'enfant. Les auteurs l'ont rappelé tout à l'heure. Nous avons la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, CDE, ratifiée par le Niger en 90. Nous avons aussi la Charte africaine sur les droits et les biens de l'enfant, qui est un instrument régional à l'échelle de l'Afrique, ratifié également par le Niger en 99. Alors, en tant que société civile, nous savons que la ratification de ces textes incombe un certain nombre de responsabilités à l'État du Niger, des obligations pour rendre effectifs les dispositions contenues dans ces textes internationaux. Nous faisons le suivi général à travers un rapport que nous produisons. Chaque fois que l'État produit un rapport pour dire « voilà ce que j'ai fait en faveur des enfants », nous élaborons un rapport soit alternatif, soit complémentaire pour éclairer les comités des droits de l'enfant basés à Genève et à Addis sur les efforts accomplis par l'État. L'autre chose aussi, nous faisons les plaidoyers. C'est une action permanente pour amener les autorités à tous les niveaux, du niveau national jusqu'aux communes, y compris les entreprises privées et publiques, pour qu'ils s'engagent résolument dans la réalisation effective des droits de l'enfant. Nous faisons également les interpellations. Lorsque nous sommes en face des cas de violation des enfants, nous interpellons qui de droit. Nous faisons également un travail de renforcement des capacités des acteurs. Parce que pour réaliser les droits de l'enfant, il faut les connaître. Il faut connaître les mécanismes, il faut connaître les voies de recours. Alors nous renforçons d'abord les capacités de nos ONG membres, mais nous renforçons également les capacités des autres acteurs, notamment les enfants et les jeunes, qui sont en réalité les premiers bénéficiaires de nos actions. Voilà, entre autres, les activités que nous sommes en train train de mettre en place.
À votre avis, comment se présente actuellement la situation des droits des enfants au Niger?
Alors, il faut rappeler d'abord que nous avons un pays majoritairement jeune. Vous l'avez dit dans l'introduction, nous avons 56% des enfants au Niger, c'est-à-dire 56% de la population en moins de 18 ans. C'est une population composée majoritairement des enfants. Cela veut dire qu'on ne peut pas développer ce pays sans mettre au devant, sans mettre ces enfants-là au cœur de toutes les actions. Alors la situation au Niger, par rapport aux enfants, elle est paralysante à plusieurs égards. Pourquoi j'ai dit cela? Dans un premier temps, quand vous prenez le droit à l'éducation aujourd'hui, à rude épreuve, l'État fait certes de son mieux, mais les besoins sont énormes. Les enfants dans beaucoup de zones de notre pays n'ont pas accès à l'éducation, notamment les zones reculées, mais également les zones affectées par les conflits, les attaques. Les terroristes. Nous enregistrons maintenant une centaine d'écoles fermées entre la région de Tlabéli et de Diffa à cause de l'insécurité. Et quand vous prenez également par rapport au droit à l'alimentation saine et équilibrée, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de difficultés. Les enfants, en tout cas de leur majorité, ne jouissent pas de ce droit. Quand vous prenez également le droit à la santé, l'État fait certes de son mieux, mais la gratuité des soins qui est accordée aux enfants de 0 à 5 ans n'est pas effective, puisqu'il y a des arriérés que l'État n'a pas encore versés au centre de santé publique. Quand vous prenez du côté du droit à la protection, aujourd'hui, on sait que les enfants continuent à être victimes de violences de toutes sortes. Je vais dire par là la mendicité, par exemple, des enfants, qui est très visible dans nos centres urbains et qui est une violation grave des droits des enfants parce que c'est de l'exploitation. Et nous avons également toujours, dans le chapitre des violences, nous avons la question du mariage des enfants, où le Niger bat le record avec un taux de 76% des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et voilà un peu les violations que nous constatons, qui sont vraiment très, très, très alarmantes et pour lesquelles nous devons tous agir.
Et Madame Halima, quelles sont les actions menées par votre ONG dans le cadre de la protection des enfants?
Merci, Balkissa. Donc, merci au studio Kalangouz. Là, moi, je me sens en famille. Je suis tout le temps dans ce studio pour intervenir par rapport à la situation des femmes ou des enfants. Donc, dans un premier temps, SOS accueille des enfants en difficulté. Soit c'est des enfants abandonnés ou des enfants qui sont en situation difficile. Nous les accueillons, les écoutons d'abord pour savoir leur situation. Ensuite, nous faisons une orientation et un accompagnement. Si l'enfant a besoin d'être accompagné dans un centre de soins, nous l'accompagnons. S'il a besoin d'un psychologue pour, en tout cas, sa santé mentale, nous faisons appel à un psychologue. S'il a besoin de sommeil, nous avons un centre d'accueil. On lui donne un lit pour son repos. Donc, après, maintenant, par rapport à l'orientation, compte tenu de tous ces paramètres que j'ai cités, nous décidons qu'est-ce qu'il faut faire. Si l'enfant a besoin de regagner sa famille ou l'enfant, en tout cas, a besoin d'aller dans un centre d'accueil. Le centre que nous avons, c'est un centre d'accueil temporaire. Donc, l'enfant est là pour 72 heures ou une semaine. Et c'est après que nous nous orientons vers, en tout cas, le ministère pour son sort, pour voir ce qu'on peut faire de cet enfant.
Au vu de la situation des enfants qui a été exposé par vos prédécesseurs, tout ce que les enfants vivent comme pire forme de travail des enfants, des pratiques néfastes comme le mariage des enfants, la mutilation, le gavage, la prostitution des jeunes filles. Peut-on dire que les droits des enfants sont effectifs au Niger? Sinon, pourquoi?
Pour dire que c'est effectif là, vraiment, c'est comme si nous-mêmes nous mettons le couteau au cœur. Les enfants, quand vous sortez à Niamey, d'ici dans la rue, vous allez voir les enfants qui sont là en train de rire. Tout à l'heure, j'avais vu une situation qui m'a un peu... C'est pour ça que je suis venue en retard. Une moto qui a cogné une fille, qui sont en train de rire, en train de mendier. Le mariage des enfants, ils viennent de les dire que c'est à 76% au Niger, le plus fort taux. Nous avons trouvé une situation à Diffa, j'étais à Diffa en septembre. Nous avons trouvé des enfants apeurés, des enfants étourdis, des enfants dans une situation alarmante. Et ils n'ont personne avec eux pour les soutenir. Ils n'ont personne avec eux pour les calmer. Ils n'ont personne avec eux pour les écouter. Parce que les parents qui sont là, ils sont dans la même situation. On ne peut pas dire que le droit est respecté. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en tout cas, bon, l'État fait de son mieux, je comprends. Mais aussi, l'État n'a qu'à ouvrir une porte pour que les partenaires qui viennent, qu'ils s'allient vers les ONG qui sont là disponibles, qui peuvent travailler. Parce que l'État ne recrute plus les agents sociaux. L'État ne recrute plus les psychologues. Moi, j'ai trouvé un panel de psychologues à Diffa. Il y en a même qui travaillent volontairement parce que c'est leur région. Ils n'ont rien comme ressources financières, mais ils travaillent parce que c'est leur région. Donc, l'État n'a qu'à renforcer
les ONG, ou en tout cas chercher une voie pour amener des partenaires qui peuvent renforcer les ONG. Parce que tous ceux qui sont sur le terrain, ce sont les ONG internationales et nationales qui travaillent.
D'accord. Madame Mourzanat, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui. Donc, c'est par rapport aux avancées réalisées sur ce plan. Là, nous avons la politique nationale de protection de l'enfant. C'est un document. Et son programme de mise en œuvre. Il y a aussi un plan d'action national visant à mettre fin au mariage des enfants qui a été élaboré. Il y a la stratégie de communication pour la prévention de la migration à risque dans le département de Kanché. Parce que là-bas, il y a des femmes et des enfants qui vont en Algérie ou soit à Libye pour, en tout cas, chercher de quoi subvenir à leurs besoins. Il y a la création de plusieurs structures de prise en charge de protection de l'enfant, notamment les centres d'accueil des enfants en difficulté familiale. Il y a aussi des centres sociaux de prévention et protection. Il y en a à Difa et Meine. Il y en a aussi, tout dernièrement, il y a eu un nouveau centre aussi à Kanché. Compte tenu de la situation qui se présente à Kanché, il y a eu un centre qui a été créé là-bas. Ça n'a pas été réceptionné, mais bientôt ça sera ouvert, ça va fonctionner. Il y a la création d'une direction générale de la protection de l'enfant au sein même du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, qui est composée de trois directions nationales qui sont la direction de prévention, promotion des droits, la direction de protection de l'enfant et la direction du renforcement de l'environnement institutionnel des droits de l'enfant. Ensuite, il a été mis en place plusieurs programmes de protection à base communautaire et qui sont holistiques, c'est-à-dire qui prennent en compte toutes les préoccupations de la population. C'est tout un paquet qu'on essaie de trouver solution à ces problèmes. Donc, c'est un processus. On fait des actions qui poussent, en tout cas, la population à être actrice de la protection de ses enfants. C'est ça, dans le cadre du projet holistique qui est un peu partout dans le Niger qui intervient. C'est l'UNICEF qui assure, en tout cas, le financement de ces projets. Il y a un lien aussi entre le comité villageois avec les structures formelles, c'est-à-dire les CEP qui ont été mises en place, les centres de promotion là. Il y a pas mal d'actions qui sont entreprises par l'État, mais nous savons que l'État a vraiment besoin d'appui. Il y a tellement de choses à faire. Il y a trop de problèmes dans le cadre de la protection. Il y a les partenaires qui nous appuient aussi, qui font de leur mieux. Sincèrement, nous pensons que c'est de gueuter de cœur si d'autres partenaires viennent encore pour renforcer ce qui est en train d'être fait par l'État. Merci.
D'accord. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de ce forum qui doit parler des avancées. Nous allons procéder quand même à un tour de table. Madame Hamidou Adama, qu'est-ce que vous allez nous ajouter par rapport à ce que Madame Mourzane tout vient de...
Justement, pour compléter ma collègue, vraiment l'État du Niger est en train de fournir beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des enfants, notamment le respect de leurs droits. Comme elle a eu à le dire, il y a les enfants qui sont en difficulté familiale, qui sont séparés de leur famille. Vraiment là, l'État a créé des structures pour remplacer un temps soit peu l'absence de ces familles-là, qui prennent en charge les enfants en attendant qu'on trouve leur famille pour les réinsérer. L'État est en train de s'occuper de leur éducation, leur alimentation, leur habillement, comme s'ils sont en famille, dans leur famille. Il y a plusieurs structures d'accueil. Et même il y a des familles d'accueil qui sont mises en place, vraiment, qui aident l'État à la prise en charge de ces enfants-là qui sont en difficulté familiale, qui sont séparés de leur famille. Parce que vraiment, un enfant qui est séparé de sa famille, c'est un enfant très vulnérable qui a besoin de toute la protection possible pour assurer son devenir. Ce que je voudrais ajouter.
Madame Salmay, à votre avis, quelles sont les avancées obtenues en matière de droits des enfants au Niger?
Les avancées, moi, je dirais que c'est timide, mais quand même, il y a des efforts parce qu'il y a des centres qui sont créés. J'ai vu les centres à Difa, c'est quelque chose. Mais moi, je me dis que l'enfant a besoin de deux choses, la famille et la nourriture. S'il mange bien, il a besoin d'être calmé. S'il a une famille, il a tous les soutiens. On l'éduque même en famille. Donc, moi, je me dis que l'enfant a besoin de manger. Contrairement à l'adulte, mais l'enfant, quand il mange bien, il se calme. L'enfant nigérien a besoin d'une bonne nutrition. Ça, je tiens beaucoup à ça. Et il a besoin d'une bonne famille aussi. Ça, si on lui garantit ça, son développement est sûr et durable.
Monsieur Zakari, quelles sont les avancées enregistrées en matière de droits des enfants au Niger?
À notre avis, en tant que coalition d'ONG, la première avancée, il faut reconnaître quand même une volonté politique de plus en plus affichée de la part des plus hautes autorités de ce pays. Le président de la République actuelle du Niger s'est montré très engagé dans la réalisation des droits des enfants, notamment de la jeune fille. aussi. Dans beaucoup de ces discours que nous disposons aujourd'hui, il a interpellé toute la société nigérienne sur la pratique scandaleuse du mariage des enfants. Il a aussi beaucoup fait de l'obligation et la gratuité de l'éducation jusqu'à 16 ans. En tout cas, son cheval de bataille. Ça, c'est vraiment en termes de volonté politique. Maintenant, une autre avancée sur le plan législatif, sur le plan institutionnel, nous pouvons noter qu'en conseil ministériel, quand même, un décret a été pris protégeant la jeune fille en cours de scolarité. Nous relevons également que le gouvernement a présenté son rapport sur la CDE devant le comité de Genève en 2018. Il a également présenté son rapport devant le comité d'Addis, toujours en 2018. Ce qui est une bonne chose parce que là, l'État a respecté un de ses engagements qui consiste à rendre compte des efforts qu'il déploie pour réaliser effectivement les droits de l'enfant. L'autre avancée également, c'est beaucoup de partenaires qui sont disponibles pour accompagner l'État. L'État est en train de faire de son mieux. L'autre côté également, les ONG sont en train de s'activer pour sensibiliser les communautés, pour mobiliser les communautés autour de la réalisation des droits de l'enfant. Voilà à peu près les quelques avancées que nous pouvons annoncer à ce niveau.
D'accord, nous allons toujours rester avec vous. Quelles sont les barrières qui freinent la réalisation des droits des enfants au Niger?
Alors, il y a plusieurs barrières et de plusieurs ordres. Si vous prenez sur le plan législatif, juridique dans un premier temps, des efforts certes ont été faits pour harmoniser nos textes nationaux par rapport aux textes internationaux, mais le chantier reste encore inachevé. Est-ce que si vous prenez par rapport à l'âge de mariage, par exemple, au Niger, pendant que les textes internationaux interdisent carrément le mariage avant 18 ans. Au Niger, dans le Code civil, l'article 145 autorise la fille à se marier à l'âge de 15 ans et le jeune garçon à l'âge de 18 ans. Vous voyez qu'il y a une sorte de rupture de barrière. Quand vous prenez également la majorité civile au Niger, elle est de 21 ans. Quand vous prenez de l'autre côté au niveau du code pénal, la majorité pénale est de 13 ans. Donc il y a vraiment un manque d'harmonisation. À ce niveau-là, c'est vraiment une barrière. La deuxième barrière qui est d'ordre économique, c'est par rapport aux ressources que l'État alloue au secteur qui concerne les enfants. Franchement, quand je prends le budget du ministère de la promotion de la femme,
qui était de 0,9%
voilà,
l'année passée et 1 milliard cette année.
Voilà, donc franchement, à ce niveau, il y a une barrière d'ordre économique pour réaliser les droits de l'enfant, puisque le ministère qui a le portefeuille, qui est chargé de réaliser ces droits-là, n'a pas toutes les ressources, qu'elles soient financières et humaines, nécessaires pour accomplir cette mission, en tout cas très lourde. Quand vous prenez toujours au niveau des finances, les collectivités territoriales du Niger qui ont un rôle également très important à jouer. Beaucoup d'entre elles ne consacrent pas beaucoup de ressources pour la réalisation des droits de l'enfant. Ça, c'est aussi une barrière. L'autre barrière, c'est les pesanteurs socioculturelles. Au Niger, quand vous prenez par exemple la question de la mendicité, qui est tolérée par la société, quand vous prenez également la question du mariage des enfants, où beaucoup sont en train de lier à la religion musulmane, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une pratique culturelle néfaste. Nous ne cessons pas de le dire, ce n'est pas de la religion. La religion, elle est plutôt pour le bien-être de nos enfants. La religion est contre tout ce qui peut mettre nos enfants en danger. C'est beaucoup plus de considérations socioculturelles. Voilà les barrières à ces trois niveaux-là, sur le plan législatif, sur le plan budgétaire, mais également sur le plan socioculturel.
Madame Salma Halima, vous avez parlé du contexte d'insécurité dans la région de Diffa. Est-ce que ça constitue une menace pour l'effectivité des droits des enfants au Niger?
Bien sûr. Parce que vous avez en face de vous des enfants qui ont assisté à des scènes terribles, qui ont besoin d'assistance. Il y en a qui sont devenus même fous parce que c'est devant eux qu'on a égorgé leurs parents. Ces enfants-là, s'ils ne sont pas pris en charge, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est des futurs terroristes aussi. Parce que c'est des enfants qui n'ont pas eu une culture de pardon. Ils ne vont pas pardonner à ceux qui ont commis ces actes. Ils auront eu une idée de vengeance sur eux. Donc moi, je me dis que en tout cas, sur Diffa, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Nous avons trouvé des agents sociaux qui sont ouverts, disponibles à tout moment, mais eux-mêmes ne se sentent pas en sécurité de bien faire leur travail.
Est-ce que l'enrôlement des enfants également dans les conflits armés constitue une violation de leurs droits?
Bien sûr, moi, j'ai toujours décrié ça. Parce que, tu vois, les enfants, le plus souvent, on leur propose des choses. Moi, j'ai dit que les enfants ont besoin de la nourriture et d'une famille. S'ils n'ont pas là où manger, et que, en tout cas, quelque part, il y a là où on peut leur faire manger et les utiliser, ils préfèrent aller là-bas que de rester là où ils seront plus ou moins tranquilles, mais ils n'auront pas à manger. S'ils mangent, ils sont tranquilles. Une fois qu'ils sont bien encadrés dans les familles et qu'ils ont à manger, en tout cas, il n'y aura pas tellement de bavures. Ils ont besoin surtout de ça.
Madame Mourzanatou, pour beaucoup aujourd'hui, la non-conformité des tests nationaux aux normes internationales là, constitue un obstacle à la réalisation des droits de l'enfant. Qu'est-ce que l'État fait pour harmoniser ces tests?
Par rapport à ces tests, l'État cherche à mettre en œuvre tout ce qui a été dit, en tout cas dans les textes. L'État applique même, si on peut le dire, parce que l'État travaille avec les textes. Et tous ces textes-là qui ont été élaborés, c'est des textes qui ne font que protéger, en tout cas, les enfants. Ça a été élaboré dans le cadre de la protection de l'enfant. Et ces textes-là, en tout cas, l'État travaille bien avec les textes. Et à part l'État, les partenaires, les ONG et autres travaillent tous avec les textes. Ils appliquent ce que le texte dit. Et c'est ce qui va nous permettre, même en tout cas, la mise en œuvre, c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant, de bien assurer le droit des enfants.
Est-ce que le fait d'intégrer les droits des enfants dans les politiques et programmes du Niger a apporté un changement dans l'effectivité des droits de l'enfant au Niger?
Pour nous, il y a eu un changement parce que les choses ne sont plus comme avant. Il y a eu des avancées à l'intérieur du PEDEL, les régions ici au niveau national. Il y a beaucoup des actions qui sont en train d'être menées, qui parlent des droits de l'enfant et il y a des actions qui ont des impacts. Par exemple, l'école des Maris, il y a des actions qui sont en train d'être menées et qui portent leurs fruits aujourd'hui. Et les gens apprécient ça même à l'intérieur, dans les villages, les communautés apprécient parce que ça permet à l'enfant de se développer. La femme, en tout cas, elle prend ses dispositions avant d'avoir une autre grossesse. Elle attend d'abord à ce que l'enfant grandisse un peu avant d'avoir un autre enfant. Elle est sensibilisée dans ce sens. Les maris même sont avec les femmes, ils les appuient. C'est de très bonnes initiatives à encourager. En tout cas, il y a eu pas mal d'actions qui ont porté leurs fruits.
Madame Hamidou Adama, quelles sont les voies de recours possibles au Niger au cas où les droits des enfants ne sont pas respectés?
Au cas où les droits des enfants ne sont pas respectés, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a de nombreux textes qui garantissent les droits de l'enfant. Donc vraiment, des dispositions sont prises pour que, en cas de manquement aux droits des enfants, il y a vraiment des mesures à prendre à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les droits des enfants.
Zachary, quelles sont les voies de recours aujourd'hui?
Dans un premier temps, il y a, comme les deux représentants du ministère, la promotion de la femme et la protection de l'enfant viennent de le dire, il y a des mécanismes au niveau communautaire. Grâce au programme de protection à base communautaire qui a été expérimenté dans 100 villages et qui est en train d'être aujourd'hui disséminé dans plusieurs autres villages du Niger, au niveau village, dans un premier temps, on met en place des structures de protection de l'enfant, notamment le comité villageois de protection de l'enfant. Ce comité-là peut être saisi et le comité va prendre en charge les cas selon sa capacité. Lorsque le cas dépasse le comité villageois, il y a un comité des sages au niveau du village qui peut prendre la relève aussi pour essayer de prendre en charge la situation. Lorsque aussi la situation à ce niveau nécessite aussi une autre prise en charge, ils peuvent référer le cas aux structures de proximité qui sont mises en place dans les communes, notamment les CJUP et les CEP. Maintenant, plus loin, vous avez au niveau de la justice ce qu'on appelle les juges des mineurs qui peuvent aussi être saisis de certains cas graves de violence des droits de l'enfant. Vous avez également au niveau du commissariat de police, au niveau de la gendarmerie et même au niveau de la garde. Là où il n'y a pas la police et la gendarmerie, vous avez ce qu'on appelle les brigades des mineurs qui peuvent aussi être saisies lorsque les droits des enfants sont violés. Vous avez ici à Niamey, par exemple, plus spécialement au commissariat central, un service central de protection des femmes et des mineurs qui fait vraiment un excellent travail. Chaque fois qu'ils sont saisis des cas des enfants maltraités, violentés, des filles victimes de viol, des filles qui sont victimes de tentatives de mariage forcé, de mariage d'enfants, donc ce service s'active pour chercher les auteurs et les traduire devant les autorités. Nous avons également nos ONG dont les portes sont grandement ouvertes. SOS Village d'Enfants l'a dit, au niveau de la CONID, nos portes sont grandement ouvertes. Nous accueillons les enfants, nous accueillons d'autres plaignants qui ne sont pas les victimes même, qui nous parlent des victimes, et nous prenons en cas les charges selon nos capacités. Et ceux qui nous dépassent, nous les orientons vers les services compétents.
Et Madame Salma Halima, quand un enfant saisit votre ONG, comment se fait l'accompagnement?
Oui, l'enfant ne s'est jamais plaint de sa situation. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là, qui l'assiste. Donc on l'amène. Des fois, il est pris de peur, il ne peut pas parler. C'est pour ça que nous prenons du temps. Plus souvent, les assistants sociaux, elles les amènent même chez elles. Ils passent la nuit. On le reverse parmi les enfants. Et c'est là qu'on arrive à gagner certaines informations. Il y a des enfants qui ne peuvent pas parler avec les grandes personnes. Mais avec ses pères, c'est plus facile. Donc, ils sont avec les enfants et on gagne les informations. Et c'est comme ça que nous attirons l'enfant et nous leur ferons comprendre que nous, nous sommes là pour le protéger. Mais si c'est un enfant qui est venu blessé, la première des choses, c'est de l'amener en soin. Une fois qu'il est soigné, il a besoin de repos. Donc, c'est après un repos de 2 jours, 3 jours, donc qu'on arrive à s'entretenir avec lui et à prendre des mesures. S'il faut porter plainte, on le fait. Si ce sont ses propres parents, on les convoque, on les écoute. Maintenant, donc, on essaie de prendre des mesures. Nous travaillons coude à coude avec le service de protection du commissariat central. Ils sont tous les jours avec nous parce que nous faisons des transferts à leur niveau. Et eux-mêmes, des fois, quand on leur amène des enfants directement, et que bon, eux, ils ne peuvent pas garder l'enfant au commissariat. C'est pas un lieu pour les enfants. Donc, ils écoutent l'enfant maintenant, ils l'amènent à SOS le temps de finir l'enquête. Et c'est comme ça que nous travaillons à SOS.
Nous allons observer une petite pause avant de continuer ce forum. Nous allons revenir dans ce studio pour procéder à un autre tour de table. Nous savons que le Niger, à l'instar des autres pays du monde, réalise des rapports périodiques sur les droits de l'enfant, notamment chaque 3 ans sur la Charte africaine et chaque 5 ans sur la CEDEF. Est-ce que cela a permis de booster la réalisation progressive des droits des enfants au Niger? Nous allons commencer par vous, Madame Morsanato.
Ça a bien permis de booster
la réalisation des droits des enfants.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, en tout cas dans la lutte de toutes les violences qui sont faites à l'endroit des enfants, à l'égard des enfants, les violences, les maltraitances et autres. Ce n'est pas pour rien que le Niger a ratifié ou bien
a pris des engagements
par rapport à la charte ou à la convention et autres. Parce que le Niger veut être avec les autres pays du monde entier. Le Niger veut aussi respecter le droit de ses enfants parce qu'un enfant, il faut le protéger. Un enfant a des droits qu'il faut lui assurer pour son bon développement. Et aujourd'hui, les enfants, c'est eux qui constituent l'avenir de demain. Si on n'assure pas les droits de ses enfants, donc qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc sincèrement, il y a eu et des avancées, il y a eu une progression quant à la signature, l'élaboration des textes et tout par rapport à la protection de l'enfant. Il y a eu des avancées. Par exemple, au niveau national, nous avons par rapport aux enfants le centre qui s'occupe des enfants en situation de difficulté familiale. Là-bas, c'est un centre étatique. C'est vrai qu'il y a des centres privés qui sont là, mais tout enfant qui est ramassé, cet enfant-là est placé au niveau de ce centre et l'État lui assure tous ses droits. Parce que là-bas, au centre, nous avons des nouveaux-nés. Il y a des enfants ici de mère malade mentale. Il y a des enfants abandonnés qu'on ramasse, on les place. Et ces enfants-là sont placés par l'inspecteur de police. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les brigades des mineurs. C'est eux qui placent sous ordonnance du placement du juge.
D'accord. Madame Hamidou Adama, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, réalise des rapports périodiques sur les droits de l'enfant. Est-ce que cela a permis de booster la réalisation progressive des droits des enfants au Niger?
Oui, parce que chaque fois, les observations, les amendements qui sont faits sont pris en compte pour améliorer les actions qui sont en train d'être menées ou bien initier d'autres actions dans le sens du respect des droits des enfants. Je peux le dire, des actions, des plaidoyers sont en train d'être menées par l'État du Niger, la société civile, les ONG et associations pour que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte dans toute décision qui concerne l'enfant. C'est une avancée. Tant qu'on prend en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, je pense que les droits de l'enfant seront garantis, effectivement.
Madame Salma Halima.
Au Niger, il y a 3 grandes structures qui peuvent donner des chiffres, des statistiques fiables. Donc, il y a l'État, il y a la CONAF et la CONIT. Donc, moi, j'ai toujours souligné, si l'État fait un rapport, de faire appel à ces 2 grandes structures. Toutes les structures qui œuvrent pour la promotion de l'enfant, si elles ne sont pas dans CONID, elles sont dans CONAF. Donc, elles peuvent avoir des éléments, parce qu'il y a des moments où ils donnent des chiffres qui sont même en deçà de ce qui est en train de se faire. Si on fait une ouverture, il y a des ONG qui sont là. Donc, c'est des gens qui aident l'État à travailler. Quand il y a un rapport qui est fait, qui va aller à l'international ou qui va au niveau de l'Union africaine, qui soit lu et approuvé par les 2 grandes coalitions, et maintenant, donc, s'il y a des observations, que l'État fasse appel à ces gens-là, qu'on leur souligne ce qui a été dit, ce qui a été fait, il y a quelque chose à faire aussi, on le fait ensemble. Sinon, les grandes coalitions qui sont là, en tout cas, elles partagent les informations avec, au sein des ONG et associations ou avec l'État. Mais avec les deux grandes coalitions, elles sont là, elles poussent. Il y a des moments, même si, en tout cas, l'ONG n'a pas fait un rapport trimestriel ou un rapport annuel, même si l'ONG n'a pas fait de rapport, ils ont quelques éléments qu'ils peuvent fournir aux besoins.
Monsieur Zakari, est-ce que la réalisation de ces rapports périodiques sur la Charte africaine des droits de l'enfant et sur la CEDEF a permis la réalisation progressive des droits des enfants au Niger?
Je pense qu'il y a eu des avancées à la suite des présentations des rapports. Depuis les tout premiers rapports que l'État a produits sur la CEDEF et sur la Charte africaine, un certain nombre de remarques ont été faites à l'État. Et que maintenant, au retour, l'État prend des dispositions pour rendre effectives ces recommandations-là. Je prends par exemple, il a été un moment reproché, recommandé si vous voulez à l'État, de créer les conditions pour séparer les enfants des adultes dans les prisons. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Et c'est grâce à une des recommandations du comité de Genève. Il y a des quartiers de mineurs dans presque toutes les prisons du Niger. Une des recommandations qui a été faite également à l'État du Niger, c'était de créer les conditions pour faciliter l'accès à l'État civil aux enfants. Et aujourd'hui, l'état civil du Niger s'est beaucoup progressé. Le taux a beaucoup grimpé. Nous sommes à 72%, ce qui est une très bonne chose, même si le défi restait encore à lever. Donc, vous voyez là, ce sont des avancées qui ont été enregistrées parce que l'État a présenté des rapports et que des recommandations ont été faites et l'État a pris disposition pour rendre effectives ces recommandations-là.
Et le temps qui nous est imparti tire à sa fin. À votre avis, Zakari, comment faire pour que les porteurs d'obligations puissent s'organiser en synergie en vue de concrétiser les droits des enfants au Niger?
Dans un premier temps, pour la réalisation effective des droits de l'enfant, il faut que toutes les parties prenantes s'engagent, travaillent dans la synergie. Il faut également un engagement budgétaire fort de la part de l'État, de la part des collectivités territoriales et même le secteur privé doit s'y mettre. Il faut également dépasser les considérations socioculturelles. Il faut se dire que les enfants, comme le feu président Seyni Kounti l'a dit, le Niger de demain sera ce que sa jeunesse aujourd'hui. Il faut mettre les enfants au cœur de toutes les réflexions, au cœur de toutes les interventions. Et il faut également combattre les pesanteurs socioculturelles qui freinent le développement et l'épanouissement de nos enfants.
Madame Halima, comment faire pour que les porteurs d'obligations puissent s'organiser en synergie en vue de concrétiser les droits des enfants au Niger?
Vous savez, en matière de rédaction de textes, on est champion. Il y a beaucoup de choses. Même ce matin, j'avais parcouru un argumentaire qu'on a fait avec l'UNFPA en français et nous avons pris soin de traduire ça dans 5 langues. Mais le problème, c'est que c'est par rapport à la vulgarisation. D'abord, il faut vulgariser. Quelque chose qui n'est pas vulgarisé, il ne peut pas être appliqué. Quelque part, quand nous sortons cet argumentaire, même, il y a même des intellectuels, il y a même des agents de l'État qui n'ont jamais pris acte de cet argumentaire. Donc, il faut le vulgariser. On a pris soin de traduire. Il faut le vulgariser, même si c'est en audio, partagé avec la population. Donc, discuter avec c'est des marabouts, c'est des techniciens. Il y avait le ministère de la promotion de la femme. Il y avait tous les acteurs qui étaient réunis pour la rédaction de cet argumentaire. Il a été valable, c'est pour ça qu'il a été traduit. Il faut le vulgariser, le faire écouter par tout le monde. Comme disent les Hausa, on connaît. Tant que la personne elle n'est pas informée, donc ce n'est pas évident qu'elle prenne acte de certaines choses. Nous avons vu les villages où SOS a intervenu. Vers Torodi, il y a des villages aujourd'hui, même par exprès, il faut aller vous dire que vous voulez marier une fille à 15 ans, vous aurez les réactions déjà. C'est parce que quelque part, il y a un travail qui a été fait. Si les informations ne sont pas parties au plus profond, en tout cas, il va toujours rester des brindis.
Madame Hamidou Adama, comment faire pour que tous les porteurs d'obligations puissent s'organiser en synergie en vue de concrétiser les droits des enfants au Niger?
Effectivement, comme a eu à le dire ma prédécesseure, c'est d'intensifier et de continuer les sensibilisations sur le respect des droits de l'enfant pour qu'à chaque niveau, chacun puisse comprendre ce que c'est que les droits de l'enfant, ce que c'est que la protection de l'enfant. Parce que vraiment, il faut comprendre la chose pour pouvoir lutter au respect de ces droits des enfants. Et aussi, c'est d'organiser des rencontres, des échanges, des réflexions sur comment faire respecter les droits des enfants, quelles sont les actions à entreprendre pour que la réalisation de ces droits des enfants-là soit effective. Comme ça, à chaque niveau doit comprendre son rôle, ce qu'il doit apporter pour respecter le droit des enfants.
Madame Mourzanatou, comment faire pour que les porteurs d'obligations puissent s'organiser en synergie en vue de concrétiser les droits des enfants au Niger?
En tout cas, par rapport à mes prédécesseurs, l'essentiel a été dit. Moi, je pense qu'il va falloir continuer une intense campagne de sensibilisation. Parce que même au niveau parental, il y a beaucoup qui ne respectent pas les parents, il y a beaucoup de parents qui ne respectent pas les droits. Je pense qu'il va falloir faire un travail à la base. Les parents, ils font des enfants, mais ils les laissent, en tout cas, à leur sort. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ça nous préoccupe et ça nous interpelle tous. La responsabilité parentale, il faut que les parents sachent qu'ils ont un rôle important à jouer pour protéger leurs enfants dans le cadre de la protection. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent par rapport au cas de ces enfants-là que nous voyons en cours de route. Partout où tu vas, il y a tout un groupe d'enfants qui est là, qui ne fait que circuler seulement durant toute la journée. Et ça, ce n'est pas bon. Et maintenant, comme a eu à le dire ma collègue, il faut que les différents acteurs se regroupent de temps en temps, des rencontres périodiques pour discuter de comment faire, en tout cas pour assurer aux enfants leurs droits. Il faut aussi chercher des partenaires parce que l'État à lui seul, sincèrement, il y a beaucoup, il y a tout un lot de travail à faire. L'État à lui seul ne peut pas, en tout cas, assurer, ne peut pas faire tout ce travail-là. Vraiment, il faut que les partenaires appuient l'État dans la mise en œuvre pour assurer le droit à ces enfants-là. D'accord. Il faut que les partenaires nous appuient.
Et merci, mesdames et messieurs, pour avoir accepté l'invitation, d'avoir participé à ce forum du studio Kalangou. Nous sommes au terme de ce forum qui a porté sur les droits des enfants au Niger, avancées et obstacles. En termes de conclusion, nous pouvons retenir pour que les droits des enfants soient concrétisés au Niger, il faut que tous les porteurs d'obligations puissent s'organiser en synergie. Il faut également que les parents soient informés et sensibilisés sur le rôle qu'ils doivent jouer pour assurer une protection à leurs enfants. Il faut également revoir le budget alloué au ministère de la protection de l'enfant. Il faut que tous les acteurs s'impliquent pour que les droits de l'enfant soient assurés au Niger. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. À la présentation, c'était Balkis Amidou. À la technique, Saini Isaka. Merci, chers auditeurs.